France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Et bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Je profite de ce début d'émission pour répondre au mail de Sophie, habitant Toulouse, qui nous pose cette question. Allez-vous enfin aborder le débat chocolatine ou pain au chocolat? Bon, alors Sophie, il est vrai que dans cette émission, nous n'hésitons pas à nous pencher sur des sujets délicats. Pourtant, dans cette affaire, pain au chocolat ou chocolatine, est-ce notre rôle à nous, médias, d'attiser les tensions? Allons peut-être jusqu'à diviser le pays en deux. Est-on forcément et de pain au chocolat et de chocolatine? Ne peut-on pas être de chocolatine, de pain au chocolat? Voilà, dans une rhétorique macronienne. En tout cas, le débat est ouvert. Je sens que toute la France entière bouillonne autour de ce débat. On espère que le Premier ministre réagira d'ailleurs prochainement. Nous, on va s'arrêter là de peur d'attiser la polémique. Et eux, ils n'ont pas encore pris parti sur ce sujet, bien qu'on ne sait pas encore. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Erwan Hedan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol, professeur à Sciences Po. Également Marion Mourgue. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Du Figaro. Adrien Quatennens. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de la France Insoumise, de la première circonscription du Nord, et Paul Quignot, bonsoir, de Libération.
Bonsoir.
Et ce soir, on parlera de la SNCF, puisque c'est veillée d'armes, également de ces emplois qui semblent revenir en France. On parlera de Mayotte, la colère qui ne faiblit pas. Mais juste avant, revenons sur l'ouverture d'un procès aujourd'hui très, très médiatique, à savoir celui du groupe de Tarnac. Et oui, en 2008, ils étaient présentés comme de dangereux terroriste, je cite, d'ultra-gauche. 10 ans plus tard, 8 membres du groupe de Tarnac donc comparaissaient devant, et comparaissent toujours, devant le tribunal correctionnel de Paris. Mais maintenant seulement pour des dégradations de lignes TGV et des manifestations violentes. On parle de fiasco judiciaire et d'emballement de la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Paul Quignot, est-ce qu'on peut dire que c'est un procès politique qui s'est ouvert aujourd'hui?
Non, parce qu'il y a quand même eu vandalisme, un certain nombre de trains arrêtés et des gens mis dans la pagaille. Donc, on peut parler de fiasco, ouais. Ça c'est sûr, puisqu'on était parti sur une accusation de terrorisme. On sait que que ça soit du côté de la police et de la justice, voilà, il y a eu des vraies fautes dans les procédures. Et qu'on est loin aujourd'hui de ce qu'on nous disait à l'époque. C'est un procès politique et judiciaire. C'est même plus large que ça, parce qu'on a quand même, y compris le journal dans lequel je travaille, on a tous fait des erreurs sur ce dossier. Donc voilà, un procès politique. Non, je pense, je ne crois pas quand même.
Adrien Quatennens, comment vous le voyez, vous? Certains parlent de scandale d'État à propos du groupe de Tarnac. C'est un journaliste d'ailleurs qui a écrit un livre dessus. Lui dit, c'est un scandale d'État, il y a eu un emballement, on voulait absolument des coupables, on a été chercher justement à Tarnac.
À tout le moins, c'est un flop gigantesque, c'est clair. Rarement un cas judiciaire aura eu de tels loupés dans la procédure, entre les pressions sur témoins, les procès verbaux dont on peut douter. Bon voilà, clairement c'est un flop, et on voit bien comment ça aboutit et comment c'est jugé. Enfin, il y a eu de multiples erreurs, ça a duré beaucoup. Et oui, il y a eu aussi des incriminations sans objet, il faut bien le dire. Même s'il y a des faits, il y a eu une espèce d'emballement général autour de cette affaire qui ne le méritait pas.
Marion Mourgue, aujourd'hui Julien Coupa, ce chef dont on disait, c'est devenu une sorte de symbole, finalement, dont on parle d'ultra-gauche.
Bah, il l'était au début, mais l'affaire, c'est en 2008, donc c'est il y a 10 ans, oui. Avec une requalification en 2017. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un symbole, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres pour ceux qui mènent des luttes, mais c'est surtout le temps qui marque ces 10 ans pour arriver à dépatouiller l'affaire. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, et moi la première.
Oui, c'est vrai, mais on se souvient juste à l'époque, c'est vrai, de cette ministre Michèle Alliot-Marie qui était en poste, et de la pression médiatique dont Paul Quignot parlait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on suit depuis 10 ans, et qui peut étonner d'ailleurs sur la longueur judiciaire aussi, à Wallenau. C'est vrai que là, on a eu rebondissement sur rebondissement pour finir aujourd'hui, je rappelle, sur donc dégradation de ligne TGV.
Oui, c'est probablement pas la seule procédure judiciaire qui est très longue. Je crois que là, il y a un certain nombre de difficultés qui se sont accumulées. Moi, je pense, évidemment, donc là, il y a un travail à faire sur l'administration de la justice, mais je trouve quand même, au final assez rassurant que qu'on voit qu'on est quand même dans un état de droit où la presse, la justice, la police elles-mêmes se remettent en cause pour voir arriver à une procédure judiciaire qui peut être suivie par tout le monde et qui pour le coup, si l'instruction a probablement été imparfaite, le jugement visiblement, en tout cas la partie jugement avec les juges est totalement indépendante et je pense qu'on a relativement confiance dans le fonctionnement de cette partie-là de la justice. C'est effectivement révélateur à la fois de dysfonctionnement et puis de aussi ce qui va bien dans le système judiciaire.
Je suis d'accord. Même si l'affaire était très compliquée et qu'il y a eu des dysfonctionnements, le résultat à l'arrivée est plutôt rassurant. Je suis d'accord avec vous. Et je pense que du coup, le procès aussi... Enfin, moi, je fais confiance à la justice pour que le procès ne soit pas un procès politique. Mmh. Et d'une certaine manière, ça va peut-être être même plus le procès des dysfonctionnements de la justice que le procès de Julien Coupa et de ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, je fais assez confiance à la justice pour éviter le procès politique. En tout cas, je l'espère.
Oui. Adrien Quatennens, on dit aussi, aujourd'hui les accusés disent en fait finalement c'est notre idéologie qu'on juge. Est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que c'est leur démarche?
C'est un risque, c'est ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce que le procès ne reproduise pas les travers de la procédure qui aboutit à ce procès. Après, bon, voilà, l'idéologie, elle se discute comme toute idéologie. Et puis après, il y a la manière aussi. Certains, effectivement, choisissent des méthodes d'action que, par exemple, moi, je ne choisis pas. Moi, je pense qu'on peut prôner une forme de révolution. Et moi, la révolution que j'appelle de mes voeux, elle est citoyenne. Elle se fait par le fait de convaincre, par l'argumentation. Et on règle les problèmes par quelque chose de tout à fait serein qui s'appelle la démocratie. Mmh. Bon, voilà. Mais en tout cas, oui, il faut que le procès soit exemplaire. Et c'est clair que la procédure n'a pas été du tout.
Ouais. Allez, de toute façon, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, puisque ce procès se tiendra jusqu'au 30 mars. Dans un instant, on va parler d'économie, puisqu'il y aurait une reprise de l'emploi en France. C'est l'INSEE qui l'a annoncé ce matin. Et puis, bien sûr, on va parler de ces ordonnances. Et oui, les nouvelles, la saison 2 des ordonnances, ça arrive demain et ça ne concerne plus du tout le Code du travail. Mais la SNCF, je pense que vous en avez déjà un peu entendu parler. Hein, voilà, c'est juste mon petit doigt qui me dit ça. Allez, on en parle dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron condamne l'attaque inacceptable commise contre l'agent double russe Sergueï Skripal et sa fille à Londres. Le chef de l'État a téléphoné dès hier soir à la première ministre Theresa May. Pour la Maison-Blanche, la Russie doit donner une réponse sans ambiguïté. Il n'a suffi que d'un simple tweet et Donald Trump a donc limogé son chef de la diplomatie Rex Tillerson. Et Tillerson a donné cette fin d'après-midi une conférence de presse, plutôt en forme de bilan. La pression, dit-il, sur la Corée du Nord a porté ses fruits au-delà de nos attentes. 5 personnes interpellées aujourd'hui près de Grenoble dans le cadre d'une opération antiterroriste. 4 hommes et une femme suspectés d'appartenir à une filière djihadiste. L'enquête doit préciser les liens que ces suspects pourraient avoir avec des individus partis sur zone irakienne. Syrienne, ainsi que le soutien financier qu'ils ont pu leur apporter. L'intersyndicale d'Air France rejette les propositions de la direction et maintient l'appel à la grève pour le 23 mars. La compagnie aérienne veut bien négocier, mais demande aussi la levée du préavis. Air France prête un rattrapage de pouvoir d'achat entre 2011 et 2017, mais pas question en revanche d'accorder 6% d'augmentation. Et puis déjà 12 médailles pour la France aux Jeux Paralympiques. Les athlètes égalent déjà le record de Sochi il y a 4 ans, de l'or la nuit dernière pour le biathlète Benjamin Davier et deux médailles d'argent, Arthur Baucher et Frédéric François dans 2 épreuves de combiné.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, veillée d'armes, donc pour les cheminots qui font déjà provision de sandwich triangle, de tuc et de mini saucisson, puisque ça c'est les joies gastronomiques du wagon-bar, puisque c'est demain en Conseil des ministres que seront présentées les ordonnances censées lancer la réforme de la société ferroviaire. Jeudi, Guillaume Pepy se chargera de la feuille de route dans l'immédiat. Alors le texte devrait rester, alors c'est assez étonnant, c'est le ton gouvernement assez vague. Voilà. Il s'agit notamment de, je cite, lister les thèmes des réformes, notamment la transcription dans la loi française des textes européens qui prévoit l'ouverture à la concurrence, la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics et la suppression du statut de cheminot pour les nouvelles recrues. Ce soir, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était reçu à Matignon par Édouard Philippe pour proposer justement une contre-réforme. Ça vient d'arriver. On va écouter Philippe Martinez, vous allez l'entendre, qui est assez critique à l'égard d'Édouard Philippe. On l'écoute.
Il considère qu'il n'a pas changé sa méthode, c'est-à-dire qu'on discute d'un côté mais on avance de l'autre. On ne peut que regretter cette méthode. Sortant, l'état d'esprit que nous avons, c'est que face à un gouvernement qui ne veut pas écouter, je ne vois pas comment on pourrait échapper à une mobilisation. Celle du 22, vous allez avoir, elle sera exceptionnelle, mais derrière, à ce que les cheminots réagissent en fonction de ce que fait le gouvernement. Et pour l'instant, il n'est pas dans la bonne route. Je pense que s'il y a un conflit, elle sera portée totalement, elle sera de la responsabilité totale du gouvernement par son refus de revoir ses positions.
Voilà, Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT, ce soir à la sortie de Matignon. Erwan Hénon, c'est la responsabilité du gouvernement? Alors, s'il y a des grèves le 22
Je pense que je serais un peu plus partagé, évidemment, mais je pense qu'il y a effectivement une part de responsabilité du gouvernement, ce que la méthode de réforme Macron commence à rencontrer un peu plus de résistance que depuis le début de l'élection. Et sa méthode, effectivement, on la connaît maintenant. On a un rapport indépendant qui reprend des propositions généralement bien connues du débat public, que le gouvernement reprend et il avance effectivement généralement assez vite en disant à ses partenaires, on fait les négociations, qu'est-ce que tu lâches, moi je bouge pas. Et donc évidemment, ça passait bien tant que au début du quinquennat, là, on voit que depuis quelques temps, ça se passe un peu moins bien. Bon, après, il faut quand même rappeler que la situation de la CNCF, le gouvernement en hérite, hein, et les difficultés de la SNCF et le fait qu'il faille libéraliser le marché ferroviaire. C'est pas une décision du gouvernement, c'est une décision que les gouvernements précédents, les majorités précédentes ont acceptée dans le cadre de la construction communautaire. Et donc le gouvernement aujourd'hui, il a aussi une part de non-choix. Il faut mettre en œuvre cette réforme, et pour que la SNCF soit préparée à la réforme, il faut changer un certain nombre de choses en fonctionnement.
Adrien Quatennens, vous attendiez justement quelque chose de ce rendez-vous de Philippe Martinez ce soir avec Édouard Philippe?
Bien sûr. Je pense qu'il faut maintenant aller vers la mobilisation du 22. Elle va être un moment important. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui a été dit, la méthode. Déjà, au moment de la séquence des ordonnances, vous vous en souvenez, les partenaires sociaux, et je vais citer volontairement un autre syndicat que celui que représente M. Martinez, c'était la CFE-CGC, le syndicat des cadres, qui sortait des discussions en disant, effectivement, on est poliment reçu, cordialement écouté, mais vraisemblablement pas entendu. Et ça, c'est clair qu'on l'observe. Et de la même manière, j'ai envie de dire, avec l'Assemblée nationale et le Parlement, vous avez vu la réforme qui est en cours,
sur la Constitution,
on discute, qui veut museler encore plus l'opposition en faisant en sorte qu'on puisse moins déposer d'amendements. Mais quand bien même, les ordonnances ont quelque chose, même si c'est une disposition constitutionnelle, elles ont quelque chose d'autoritaire. Mais je veux m'arrêter sur le fond de l'affaire. Effectivement, rien n'est sorti du chapeau de ce gouvernement. On a une bande d'idéologues qui applique avec beaucoup de zèle les directives européennes sur le rail qui effectivement doivent aboutir à la concurrence libre et non faussée. Parce que c'est une idéologie. Et que vous soyez sur le secteur de l'énergie, des télécoms ou du rail, ou que vous vendiez des bananes, il faut appliquer la concurrence libre et non faussée à tous les secteurs. Sauf qu'en réalité, on voit que ça ne fonctionne pas. L'intention affichée par le gouvernement, c'est d'améliorer le service. En réalité, je peux vous le dire, ça ne s'améliorera pas. Quel est le rapport entre la dette de la SNCF, le statut des cheminots? Cette dette est une dette historique, qui date même d'avant la constitution de la SNCF, un héritage privé. Elle a été creusée notamment par le surinvestissement dans les lignes à grande vitesse, et le statut des cheminots a été fait pour attirer du personnel sur un travail qui est pénible. Donc en réalité, ça n'a absolument rien à voir. Édouard Philippe essaie juste de donner des gages aux acteurs privés qui demain vont se positionner et qui n'auront plus à s'embarrasser du statut. Donc alors, je le dis bien, et juste, je veux insister sur une chose pour conclure, les cheminots ne se battent pas pour eux-mêmes. C'est ce que la petite musique veut vous faire croire. Mais il ne s'agit pas de la bataille des cheminots pour les cheminots. C'est une bataille d'intérêt général. Et si le gouvernement réussit son coup, il y a un effet de seuil de franchi. Donc il ne faut pas laisser faire, il faut se mobiliser.
Marion Morgan.
Ce qui est compliqué dans cette réforme de la SNCF, c'est que les ordonnances n'avaient pas été annoncées dans la campagne. Alors que sur la réforme du Code du travail, c'était dans la campagne, c'était un défilé rouge. Donc
et la réforme elle-même n'a pas été annoncée par ailleurs.
Oui, de toute façon. Donc ça n'a pas été expliqué. Et en plus, il est certes utile et nécessaire de réformer la SNCF, vu l'endettement, vous l'avez dit. Mais il y a quand même une question d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que la SNCF, c'est pas que les lignes de TGV, c'est aussi plein de petites lignes qui desservent énormément de territoires. Et à partir du moment où c'est pas débattu aussi par le Parlement, ça pose question sur la manière de faire de ce gouvernement qui, quand même, passe assez en force.
Alors ce gouvernement, justement, est assez solidaire entre eux, parce que je voudrais vous faire écouter, c'est une parole justement sur ce sujet, qu'on n'attendait peut-être pas au niveau économique, c'est ce matin sur France Inter, c'est celle de Nicolas Hulot, et voilà dans quel terme il a parlé de la réforme à venir de la SNCF. On l'écoute, Nicolas Hulot.
Je pense que c'est insupportable pour le quotidien des Français. Je prends quand même moi la SNCF et le train au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Et force est de constater que la plupart du temps, voilà. Donc il y a un souci. Il y a en plus une dérive budgétaire qui est très importante. Vous connaissez le montant de la dette. On remet tout ça à plat. Je pense que à l'inverse, si on n'abordait pas ce sujet et si on le faisait pas rapidement, on nous le reprocherait. Alors crions pas avant d'avoir mal. Est-ce que c'est normal que le transport par voie ferrée en France coûte 30% plus cher que dans d'autres pays? On peut se poser la question.
C'est étonnant, même vous, Édouard Philippe, on l'entend pas, mais même vous, vous me parlez de la dette, vous me parlez des dysfonctionnements des trains, vous ne parlez pas de l'écologie. C'est étonnant, vous parlez.
Non. Mais, attendez, je parle pas de l'écologie.
Vous dites pas, le train est un. C'est marrant de ne pas utiliser
implicitement. Si j'ai envie que la SNCF,
très implicite, là.
Implicitement, si j'ai envie que la SNCF fonctionne mieux, c'est pour inciter les gens à l'utiliser le plus souvent.
Voilà, Nicolas Hulot, ce matin, sur France Inter avec Léa Salamé. Rapidement, Eric Attin, parce que je voudrais qu'on écoute Paul Quignot.
De sa part, parce que regardons ce qui a été fait. Au Royaume-Uni, par exemple, cette privatisation, cette ouverture à la concurrence a eu lieu. C'est jusqu'à près de plus de 30% des prix des billets. C'est 14% du billet des ménages qui est consacré à leur déplacement. Et puis, Léa Salamé a eu raison d'interpeller. Moi, à 7h, plutôt que d'aller vers la libéralisation du rail, je pense que je serais plutôt occupé, avec la France Insoumise, à organiser les conditions de faire en sorte que les marchandises, par exemple, soit sur des rails, plutôt que de traverser la route comme c'est le cas. Savez-vous juste qu'un train, un train permet à lui seul de porter le chargement de 55 camions de 32 tonnes. N'a-t-on pas plus intelligent à faire que de libéraliser le rail?
Paul Quignot.
Il y a des pays où la libéralisation a été profitable, y compris en termes de
l'Italie,
prix.
Par exemple.
Non, je pense notamment à la Suède. En Grande-Bretagne, c'est vrai que ça a été une catastrophe et que les trains marchent mal et sont très chers. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais la séquence va être intéressante parce que je pense que les cheminots sont chauds bouillants. Nous, on a été en reportage dans plusieurs endroits, notamment à Rennes et Marseille, et on raconte ça dans Libération de demain. Et on sent qu'effectivement, ils ne sont pas contents. Et c'est évidemment la question du statut qui est en cause. Plus que la question des petites lignes qui est importante.
Mais non, pour les cheminots,
qui va mobiliser là, le 22 et éventuellement après, c'est évidemment la question des cheminots. Et avec quelque chose d'assez injuste, parce que pour le coup, là encore, je suis d'accord avec vous, c'est pas le statut des cheminots qui est à l'origine de la dette de la SNCF. Et ce qu'on a, nous, ressenti là, quand on est allé les voir, c'est qu'ils ont un sentiment assez injuste de penser que, en fait, les Français ont l'image des cheminots d'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Alors que des choses ont été faites quand même. Sur la retraite, par exemple, je pense que les gens ont en tête que les cheminots partent à la retraite à 50 ans, ça n'est plus vrai. Et on parle de gens qui gagnent 1 200 euros, 1 300 euros, ce n'est pas non plus des fortunes. Donc il y a un petit côté injuste. Après, ce qui va être compliqué, c'est que le gouvernement, il a l'opinion publique avec lui. Et donc, il va y avoir,
on l'a vu en effet sur différentes enquêtes,
un match entre le gouvernement qui a l'opinion publique avec lui et les cheminots qui vont être remontés. Et il y a un petit paradoxe aussi, une petite difficulté qui peut se pointer pour les cheminots, c'est qu'ils sont en colère, mais ils sont aussi un petit peu fatalistes face à un gouvernement dont ils savent qu'il veut agir et qu'il agira.
Alors,
ça va être compliqué.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Une première journée d'audience au tribunal de Paris pour le procès du groupe de Tarnac. Mais demain, le tribunal se déplacera en Seine-et-Marne sur les lieux du sabotage SNCF en 2008. 8 militants libertaires comparaissent notamment après la dégradation de cette ligne SNCF. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs. Philippe Martinez accuse le gouvernement de choisir l'affrontement avec les cheminots. Déclaration il y a quelques minutes du secrétaire général de la CGT à sa sortie de Matignon. Il est venu présenter un contre-projet de 70 pages à la réforme ferroviaire. Mais pour lui, le gouvernement aurait la responsabilité totale d'un conflit à la SNCF s'il refusait de revoir ses positions et son calendrier. Mayotte reste sous tension, Annick Girardin reste sur l'île. Une grande manifestation s'est déroulée aujourd'hui à Mamoudzou. Cet après-midi, la ministre des Outre-mer a rencontré l'intersyndicale et des élus, des personnes qui étaient déçues à la sortie de la réunion. Plus de 3 semaines de bombardements et de morts sur cette zone de la Syrie et des centaines de civils blessés ont pu être évacués aujourd'hui de l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. L'ONU appelle désormais à l'évacuation urgente d'un millier de malades et de blessés. Et puis le père de Neymar assure que son fils a un avenir au PSG malgré les rumeurs de départ de la star brésilienne du foot. Actuellement en phase de rééducation, il est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible. Cette fois, c'est le président du club parisien, Nasser Al-Khelaifi, qui parle. Il lui a rendu visite aussi hier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Demain, eh bien, le gouvernement dévoilera les ordonnances concernant la SNCF. Je ne sais pas combien de mes confrères vont faire un titre. Le gouvernement va à un train d'enfer, hein, peut-être. Mais en tout cas, c'est à miser dès ce soir. Erwan Le Nohan, quand tout à l'heure Adrien Quatennens disait, voilà, aujourd'hui c'est sur l'Europe, aujourd'hui le gouvernement doit accepter. Est-ce qu'il a le choix, d'ailleurs, ce gouvernement?
Alors, il a modérément le choix. D'ailleurs, d'abord, ce sont des engagements de la France qu'il n'a pas pris lui, qu'il hérite des précédents gouvernements. Et c'est pour le coup, et là je serais d'accord avec monsieur le député, c'est la ligne de la Commission européenne. La construction européenne est fondée, mais premièrement, c'est d'abord une construction économique qui vise à réaliser un grand marché. En 1950, c'est ça qu'on crée, avant de faire une communauté politique dans les années 80. Donc c'est la logique de la commission, de la construction européenne, pas uniquement de Bruxelles. C'est tout le monde s'est réuni, les 6 premiers sont réunis pour dire, nous on va faire un grand marché où les produits pourront circuler librement. Est-ce que la libéralisation du transport ferroviaire est contraire ou en contradiction avec le transport de fret plutôt que par camion? Pas du tout. C'est juste la seule chose où avec un transport de meilleure qualité, la seule chose que pose comme principe la libéralisation, c'est pas du tout une privatisation, c'est de dire demain le transport, on parlait de transport de produits de marchandises, bah demain ça peut être la SNCF, mais ça pourrait être la Deutsche Bahn, ça pourrait être une autre compagnie, qu'importe, l'important c'est que ce soit fait de manière efficace. Et donc la question, il n'y a pas du tout de, pour le coup il y a un discours libéral en économie, mais il n'y a pas du tout d'idéologie pour savoir qui doit le faire. Si la SNCF est celle qui le fera le mieux, la Commission européenne sera ravie.
Oui, Adrien Quatennens.
Moi, je voulais juste redire une chose sur la dette, parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup, on nous assomme beaucoup avec cette dette. Vous voyez juste un exemple d'une ligne récente, la ligne Bordeaux-Tours. Montrer aussi à quel point on creuse parfois la dette. Cette ligne, c'est un partenariat avec une filiale de Vinci qui s'appelle l'ISEA. La ligne a coûté, grosso modo, je crois, c'est 7,5 milliards d'investissements nécessaires. L'ISEA a contribué à 2,4 milliards d'investissements.
Voilà, vous parlez de la LGV, hein, Paris-Bordeaux, voilà,
le reste, c'est la puissance publique. Donc, c'est une ligne qui nous a coûté cher, qui a coûté cher aux contribuables. Et en réalité, pendant les 44 prochaines années, c'est cette filiale privée qui va bénéficier intégralement des péages. Structurellement, ça représente 250 millions d'euros de déficit à la SNCF chaque année. Donc, vous voyez qu'on a une ligne, là, par exemple, qui est en déficit structurel. Donc, c'est aussi un argument d'autorité, la dette, vous savez, pour faire en sorte qu'on regarde nos chaussures et qu'on ne voit pas qu'il y a en réalité des marges de manœuvre. Moi, je le dis, on a juste, effectivement, l'application zélée des directives européennes. Et en plus, on a des démonstrations dans plein de pays d'Europe, et c'est le cas au Royaume-Uni, par exemple, que ça ne fonctionne pas mieux.
Oui, donc, mais il y a le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres aussi.
Et par ailleurs, quand on parle du statut des cheminots, c'est vraiment là. Alors, on a été au bout quand on a vu ce gouvernement courir les plateaux télé pour dire les cheminots sont des privilégiés. Si vous voulez, quand on a parlé notamment de l'ISF, on nous autorisait pas à parler de privilèges. Quand on voit Monsieur Darmanin qui vient nous dire la SNCF ça coûte autant par Français par tête de pipe, il avait dit 340. L'évasion fiscale par exemple c'est 1600 par an et par Français. Donc on a des arguments fallacieux.
Erwan, non, vous voulez juste répondre sur ce que disait sur la dette, Adrien Quatennens.
Oui, non, mais le à nouveau, je redis, le sujet de la Commission européenne n'est pas de savoir si l'entreprise est publique ou privée. Son seul sujet, pardon, c'est que ça soit fait de manière efficace. Et dans ce contexte, elle s'en fiche que ce soit la SNCF ou un autre. Et ça, je crois que ça n'est pas une question de comportement zélé du gouvernement. C'est une question d'engagement et de construction communautaire.
Marion Mourgue.
Je voulais juste répondre à Paul Quignot. L'opinion publique est certes derrière le gouvernement pour ce texte, parce que les cheminots n'ont pas une très bonne image, ni la SNCF où il y a une accumulation de retard, mais les parlementaires ne sont pas tous derrière le gouvernement, et justement pour ce problème des petites lignes, mais pas uniquement, et qu'à partir du moment où les parlementaires vont aussi communiquer sur le terrain sur ce texte, il peut y avoir un blocage, alors même s'il y a la méthode des ordonnances qui est choisie.
Paul Quignot.
Juste, je voulais aussi rajouter qu'on s'est amusé dans Libération à faire, je dis ça par rapport à ce qui a été dit sur la concurrence, la SNCF n'a pas forcément à rougir de la concurrence, et elle n'a pas forcément à en avoir peur. On a, nous, fait un banc d'essai entre la SNCF et la Deutsche Bahn. La SNCF en sort vainqueur, c'est-à-dire que on a croisé 10 critères qui vont du prix du billet à un gros nombre de salariés par voyageurs transportés. Sur ces 10 critères, la SNCF sort en tête. Donc voilà, je dis pas que tout va bien. Il y a eu des retards. On connaît les crises qu'il y a eu dans l'année qui vient de se dérouler. Mais la SNCF n'est pas non plus une catastrophe intégrale.
Juste une chose, rapidement, Adrien Quatennens, sur les ordonnances, il y a juste une chose. J'aurais juste être clair dessus. Je vois que vous êtes contre. contre, est-ce que ça voulait dire que il faut totalement supprimer les ordonnances? Par exemple, quand François Mitterrand et Pierre Mauroy les font en 1982 pour les congés payés, pour la semaine de 39 heures, ça veut dire que là aussi, c'est pas bien les ordonnances?
Non, mais c'est une disposition constitutionnelle. J'ai commencé par vous le dire. Il vous aura pas échappé par ailleurs que pour ma part, je défends l'idée d'une 6e République, c'est-à-dire qu'on refonde ces institutions et que par ailleurs, comme y compris d'élection en élection, la démocratie est marquée par la grève civique et des gens qui ne consentent plus à la règle du jeu, l'idée de la constituante.
Ça veut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises ordonnances.
C'est surtout que je pense que de toute façon, avec les dispositifs que permet cette constitution, l'idée de monarchie présidentielle qui concentre beaucoup de pouvoir sur un seul homme, c'est exacerbé. Et Emmanuel Macron l'utilise à plein régime.
D'accord.
C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, que ces institutions sont à changer.
Allez, dans un instant, on va continuer à parler d'économie avec un retour de l'emploi. Apparemment, ça n'arrête plus en ce moment dans tous les secteurs, enfin, bon, sauf les services publics. Et on parlera également de la situation à Mayotte. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les paires de skis, les raquettes, la luge, l'appareil à raclette. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380€ par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux valable jusqu'au 31 mars 2018. Conditions sur mini.fr.
Moi, c'est Étienne. Pour mon nouvel appart, j'économise 15 000€ sur mon assurance emprunteur. J'ai fait une simulation en ligne, échangé avec un conseiller EOVMCD et souscrit à Aesio Protection Emprunteur en quelques clics. Facile.
Eh oui, changer d'assurance emprunteur en souscrivant à Aesio Protection Emprunteur, c'est économiser sans effort jusqu'à 15 000€. EOVMCD Mutuel, parce que vous n'êtes pas un numéro. Offre soumise à condition. Économie moyenne constatée selon profil de l'emprunteur au 31 décembre 2017 par rapport à un panel d'offres concurrentes sous réserve de décision médicale de l'assureur et des conditions d'obtention du prêt.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
C'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend demain. Des nuages bas vont retarder l'arrivée du soleil sur le quart nord-est, avec même quelques bandes brouillard par endroit, mais l'après-midi se passera sous le soleil. Entre le Cotentin et l'Aquitaine et sur les Pyrénées, après une matinée lumineuse, le ciel va devenir de plus en plus nuageux avec quelques ondées localement. En Bretagne, la couche nuageuse sera plus compacte. De petites pluies sont déjà possibles en matinée, devenant plus régulières demain après-midi. Sur le Languedoc, l'après-midi va aussi devenir très nuageux avec l'arrivée d'entrées maritimes venant de Méditerranée. À noter que le vent va se renforcer sur l'ouest des Pyrénées. Demain matin, les températures seront parfois voisines de 0 degré sur le centre-est avec même quelques gelées par endroit. En revanche, les maximales seront en hausse et plutôt douces pour la saison, grimpant entre 12 et 18 degrés.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Arrivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La Syrie, pour la première fois, des civils évacués de Ghouta orientale, près de 150 personnes d'après l'armée syrienne. L'ONU avait alerté hier sur la situation d'un millier de personnes nécessitant une évacuation en urgence pour des raisons de santé. Les combats durent depuis plus de 3 semaines. D'autres affrontements au nord, enclave d'Afrin, la Turquie y combat les forces kurdes au prétexte de protéger sa frontière. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, abordait ce sujet cet après-midi à l'Assemblée nationale.
La situation en Syrie est insupportable, insoutenable, intolérable, et il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. 2 semaines après son adoption, la résolution du Conseil de sécurité prévoyant une trêve humanitaire de 30 jours en Syrie est restée lettre morte. Cette responsabilité, elle appartient en particulier aux États qui sont engagés militairement sur le terrain, qui portent une responsabilité particulière. C'est le cas de la Russie, qui apporte un soutien aérien aux opérations du régime dans la Ghouta. C'est aussi le cas de la Turquie. Ses préoccupations de sécurité sur sa frontière sont légitimes, mais ça ne justifie en aucun cas des opérations militaires aboutissant à mettre gravement en danger les populations civiles. Dans l'immédiat, il faut créer toutes les conditions pour que la trêve soit mise en œuvre. Nous faisons valoir le droit international contre la guerre, et c'est ce que le président de la République a dit très clairement hier soir.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, son homologue américain Rex Tillerson quittera ses fonctions à la fin du mois. Il a été officiellement viré ce matin par Donald Trump. Officiellement signifie là en fait que ça lui a été annoncé sur Twitter. Il sera remplacé par le directeur de la CIA, Mike Pompeo. Lui-même cédant sa place à sa numéro 2. Première femme à diriger l'agence, elle s'appelle Gina Haspel et c'est une ancienne espionne accusée d'avoir eu recours à la torture dans des prisons secrètes dont elle avait la charge. Le rendez-vous entre Édouard Philippe et le secrétaire général de la CGT ce soir à Matignon ne s'est visiblement pas très bien passé. À la sortie, Philippe Martinez dénonce un gouvernement qui ne veut pas écouter et qui choisit l'affrontement. Le projet de la réforme de la SNCF se fera par ordonnance. Une première manifestation nationale est prévue le 22 mars à Paris à l'appel des quatre principaux syndicats de cheminots. Et le lendemain 23 mars, ce sont les syndicats d'Air France qui appellent ensemble à cesser le travail. La direction de la compagnie qui les recevait aujourd'hui a refusé leurs revendications, une augmentation générale des salaires. Elle propose des ajustements qui ne leur conviennent pas. La Ligue des champions de football, Manchester United face au FC Séville. C'est un huitième de finale retour à 20h45. Il n'y avait pas eu de but à l'aller. Et puis l'AS Rome face au Shakhtar Donetsk. Les Italiens auront un but de retard à rattraper. 20h33 sur France Info, Jean-Mathieu Pernin les informés.
20h21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sont un petit peu les forces rouges, jaunes, vertes et bleues de l'actualité. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Erwan Lenoant, membre du conseil scientifique de la Fondapol et professeur à Sciences Po, Marion Mourgue du Figaro, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise de la première circonscription du Nord et Paul Quignot de Libération. On s'est inquiété, mais tellement inquiété. On était dans une spirale négative, on n'allait jamais s'en sortir, tout était fichu. Et puis ce matin, il y a eu l'annonce de l'INSEE. Alors c'est sûr que le nom Institut de la Statistique et des Études Économiques, c'est pas le plus excitant hein, quand on se réveille le matin. Mais aujourd'hui, tout de même, il a annoncé une bonne nouvelle, à savoir la création de 268 800 emplois salariés l'an dernier en France, du jamais vu depuis 2007. Il paraît d'ailleurs que dans les bureaux de Bercy, on a entendu un petit « ouhou » comme ça. L'industrie, la construction, les services marchands sont les grands gagnants et les perdants, ou plutôt la perdante, c'est la fonction publique. 8900 postes ont ainsi disparu. L'INSEE pointe du doigt la baisse du nombre de contrats aidés. Alors, y aurait-il une France qui avance et une autre qui reste à quai? Marion Mourgue, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron peut s'approprier finalement ces chiffres vu que c'est sur un an?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un élément de confiance en économie, donc le fait qu'il ait installer une bonne image de la France à l'international, mais aussi au début de son quinquennat, ça, forcément, ça rassure. Ensuite, vous l'avez dit, c'est sur un an, donc il y a aussi des bénéfices d'autres politiques qui n'ont pas forcément été menées par Emmanuel Macron.
Ça veut dire la politique de François Hollande? Parce que souvent, ces lieutenants, maintenant, ressortent quand on sort.
Bah, la politique du CICE, oui, ça a apporté ses fruits pour les entreprises. Après, pas forcément toutes les mesures, mais celle-ci, oui.
Erwan Lenoant.
Et puis, il y a le contexte international qui est quand même plus porteur qu'il n'était il y a quelques années. Donc, évidemment, le gouvernement a beau jeu de récupérer les résultats, parce qu'il n'y a pas que l'emploi, la croissance, le chômage a un peu baissé. Donc, il y a des résultats qui sont... des signaux faibles positifs, faut pas non plus exagérer, hein. On n'est pas entré dans le plein emploi avec une croissance forte et une dette qui a disparu. Tous les problèmes structurels de la France sont toujours là. Mais effectivement,
Paul Quignot.
Oui, non, oui. Mais bien sûr. Non, mais je dis pas l'inverse. Je dis juste qu'il faut pas exagérer l'ampleur du bon résultat. Mais effectivement, il peut s'attribuer.
On est quand même dans une situation qui a jamais été aussi bonne depuis 10 ans. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est surtout moi la question que je préfère me poser de savoir si c'est une bonne nouvelle pour Macron ou si c'est plutôt grâce à Hollande, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chômeurs et que on est à je crois moins de 9% aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé depuis 10 ans. Réjouissons-nous.
Alors, Adrien Quatennens, ça y est, la France est sur de bons rails, alors?
Écoutez, j'aurai du mal à cotiser à l'ambiance joyeuse de ce soir. Oui. Non, je vais relativiser un peu. Bon, d'abord, effet Macron ou pas? Bon, peut-être un effet Draghi, parce que les taux ont baissé, et donc un peu plus d'investissement. Peut-être un effet tourisme aussi, parce qu'on sait que l'année dernière a été bien meilleure que la précédente. Non, moi, en réalité, j'ai bien peur que la politique de Macron, au contraire, mette à mal cette reprise économique. Parce que, d'abord, on a une croissance qui est assez pauvre en emploi.
il faut le dire. Et puis la croissance aussi, en tant que telle, il faut relativiser un peu, parce que vous savez que vous creusez un trou, vous le rebouchez, ça fait de la croissance. Un accident de voiture, ça fait de la croissance aussi. Mais en réalité, même au niveau du chômage, on l'avait dit au moment de la séquence des ordonnances, il y a une politique un peu fainéante, à mon sens, qui, plutôt que de relancer vraiment l'activité, pas n'importe quelle activité, une activité qui serait socialement utile, écologiquement soutenable, on a un gouvernement qui s'est attaqué au chômage de masse, en y substituant l'emploi précaire. Et donc, on le voit dans le détail, on a un développement plutôt des contrats courts, de l'emploi
l'intérim,
précaire.
De l'intérim, oui.
Voilà, donc, à un moment donné, y compris les statistiques du chômage, il faut les relativiser. Vous savez, il y a le fameux halo du chômage, les chômeurs qui n'apparaissent pas dans les statistiques. C'est à peu près 1,5 million là, de personnes, ça n'a jamais été aussi haut. On sait aussi qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont en temps partiel subi, qui recherchent un temps plein. Donc, moi, je suis d'accord pour me réjouir, bien évidemment, chaque fois que le chômage baisse. Mais il faut voir la réalité derrière, c'est qu'il y a plus de précarité à l'heure où on se parle. 85% des embauches sont en contrat court. Est-ce que la situation s'améliore pour celles et ceux qui nous écoutent, sans même parler du pouvoir d'achat et tout le reste? Je ne pense
pas. C'est ça, Erwan Nounan. Est-ce que finalement on peut construire cette confiance sur, là on l'a vu, donc une forte hausse de l'intérim, hein, selon les chiffres de l'INSEE. Est-ce que c'est pas fragile, ça?
La confiance, elle est d'autant plus fragile que les derniers chiffres, si je ne me trompe pas, de février sur la confiance des ménages étaient en chute, notamment sur les questions de pouvoir d'achat. Donc effectivement c'est fragile et ça reste à construire. Le fait que les comptes, ce soit les contrats intérimaires qui repartent qui augmentent le plus, c'est assez classique quand ça repart et que la situation n'est pas encore complètement claire. C'est-à-dire que les entrepreneurs choisissent d'abord des emplois qui effectivement sont pas de longue durée, parce qu'ils disent bon voilà, j'ai une recrudescence d'activité, j'ai à faire appel à des gens qui peuvent m'aider pour cette recrudescence. Tant qu'elle est pas, je suis pas sûr qu'elle soit définitive, je prends un contrat court.
Marion Maud, on voit quand même aujourd'hui que certains gagnent en effet, et puis il y a cette fonction publique toujours qui ne semble pas du tout finalement proche d'Emmanuel Macron. On le sait depuis le début, il y a quand même eu le rétablissement du jour de carence, on l'a vu sur d'autres sujets. Il y a un problème entre le président de la République et la fonction publique?
Là, je ne sais pas si on peut parler de problème, parce que les chiffres sont assez limités dans ce que ça représente. Moi, ce qui me frappe plus, c'est de coupler le chômage avec le pouvoir d'achat dans la préoccupation des Français. Et on voit qu'aujourd'hui, la préoccupation sur le pouvoir d'achat est en train de monter, quitte à reléguer un peu la question du chômage, et parce que cette question touche de plus en plus largement. Donc peut-être que Emmanuel Macron perdra aussi le bénéfice de la baisse du chômage de l'autre côté. Quoi.
Oui, Erwan,
Juste une précision, effectivement, alors c'est de l'emploi public, pas nécessairement de la fonction publique, c'est pas des fonctionnaires qu'on a supprimés, c'est effectivement les emplois aidés, et on parle de 8900 emplois, c'est pas non plus massif.
Oui, c'est Paul Quignot.
Non, je trouve que les signes encourageants, il ne s'agit pas de dire que tout va bien et que de chausser des lunettes roses, mais les signes encourageants, c'est que c'est dans l'industrie, notamment, et dans le bâtiment que ça repart, donc je trouve que c'est plutôt bon signe. Sur le pouvoir d'achat, je pense qu'il y a une mesure qui a fait très mal à Emmanuel Macron, c'est celle sur la CSG. Et que la grogne sur la question du pouvoir d'achat me semble liée énormément à cette question-là.
Mais justement, est-ce que cette grogne aujourd'hui, elle est palpable ou elle est un peu fantasmée aujourd'hui, véritablement autour d'Emmanuel Macron?
Elle sera palpable le 22. Et quand vous parliez tout à l'heure de savoir s'il y avait un problème entre Emmanuel Macron et la fonction publique, oui, bien sûr qu'il y a un problème. Et on le verra, à mon avis, le 22.
Et même le 15 avec les retraités qui descendent.
Absolument, le 15 sur la CSG.
Quitte à dire que les indicateurs sont au vert, allons-y, du coup, pour celles et ceux qui nous entendent. C'est le moment de revendiquer des augmentations de salaire. C'est le moment, pourquoi pas, d'embaucher en CDI, quitte à statuer sur l'emploi précaire et les contrats courts. Pourquoi pas, par exemple, parce que moi je suis pas commentateur, je dois faire des propositions aussi comme responsable politique. Par exemple, nous avions proposé que nous puissions limiter le recours aux contrats courts dans l'entreprise. Alors, pour les PME, 10%, pour les grosses entreprises, 5%, mais le limiter pour faire en sorte qu'on relance l'activité durablement, pas simplement mettre la petite rustine de l'emploi précaire sur le chômage de masse.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomm.
Avec ce face-à-face tendu entre Bertrand Cantat et une centaine de manifestants ce soir à Grenoble, d'autant que le chanteur est allé au-devant d'eux, répondant au sifflet par des baisers envoyés à la main. Certains manifestants, à l'appel d'une association féministe, lui ont craché dessus pour protester contre cette venue 24 heures après avoir annoncé qu'il annulait ses festivals d'été mais conservait les dates de cette tournée de printemps. Une conférence de presse plutôt en forme de bilan ce soir pour Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, limogé d'un simple tweet par le président Trump aux États-Unis.
États-Unis. Bilan sur la Corée du Nord, la pression a porté ses fruits au-delà de nos attentes, dit-il. Concernant la Russie, les États-Unis doivent apporter une réponse au comportement troublant de Moscou. Le président américain, qui est arrivé depuis à San Diego en Californie, un état farouchement opposé à sa politique sur l'immigration, et le président américain vient présenter son projet controversé de mur à la frontière mexicaine. Parcoursup joue les prolongations. L'heure limite d'inscription à l'université était programmée à 18h ce soir. Eh bien, ce sera 23h compte tenu de la grande affluence sur cette plateforme et pour permettre à tout à chacun de formuler des vœux sur cette plateforme d'admission post-bac. Et puis les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, des matchs retour d'ici quelques minutes. Les footballeurs de Manchester United se mesureront à Séville et l'AS Rome sera opposée à Donetsk.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des bons chiffres présentés par l'INSEE sur ce retour à l'emploi du jamais vu depuis 2007, notamment dans le secteur privé. Paul Quillot, vous vouliez répondre, je crois,
à Adrien Quatennens. C'était juste parce que j'ai bien vu que tout à l'heure, quand je me disais que quand il y avait des bonnes nouvelles, c'était bien de se réjouir, que j'avais l'impression de déranger un peu.
Mais non,
Je voulais juste dire à mon voisin que ces critiques sur la politique gouvernementale seraient plus audibles si, de temps en temps, quand il se passe des choses positives, vous pouviez le reconnaître.
J'avais
juste envie de vous titiller là-dessus.
Je vous réponds sur ce point. Dites ça aux personnes de la majorité, parce que, voyez-vous, nous ne sommes pas une opposition de principe. Ça nous arrive bien souvent même, plus souvent que vous ne le pensez. Regardez bien ce qui se passe à l'Assemblée, d'être d'accord avec la majorité, de voter avec eux. En revanche, tout ce qui peut venir de chez nous, y compris des propositions de loi qui sont tout à fait consensuelles. Je pense récemment à ce qu'on a pu faire sur le burn-out, sur le droit à l'eau. Il y a tir de barrage systématique. Donc, voyez, on est plutôt constructif. Et moi, voyez, je m'efforce depuis tout à l'heure, y compris dans notre discussion. Chaque fois que je déconstruis quelque chose de ce que fait ce gouvernement, je le fais pas par principe, je le fais parce que j'ai un diagnostic à poser. Et derrière, voyez, je formule des propositions. Moi, je pense qu'on pourrait faire tout autre chose. Il y a de l'énergie disponible dans ce pays. Et Emmanuel Macron nous mène dans une impasse libérale. On pourrait faire d'autres choses avec cette énergie disponible. Par exemple, effectivement, la relance écologique de l'activité, une activité qui soit pérenne. Pas simplement se contenter de dire oui, c'est super, il y a un peu moins de chômage parce qu'il y a un développement des contrats précaires. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit c'est bien, ça va mieux. Moi, je pense toujours à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que dans leur quotidien, ça va mieux? Non, cette présidentielle n'a rien réglé.
Pour un certain nombre de gens qui ont retrouvé du boulot, oui, ça va mieux.
Mais attendez, est-ce que vous pensez, par exemple, quand vous retrouvez du boulot et que ça dure pour quelques mois seulement, vous pouvez faire des projets? Est-ce que vous pensez. Bon, voilà, donc on ne peut pas satisfaire de ça.
Et je ne dis pas que tout est parfait.
Mais soyez exigeants vous-même alors. On pourrait faire bien plus et bien mieux. Allons-y.
Marion Mourgue, est-ce qu'il y a une. On le voit en ce moment, ces mesures mises en place par Emmanuel Macron nous a parlé, ce fameux premier de cordée, la mise en place d'un nouveau code du travail, tout ça, ça va prendre du temps. En attendant, on le voit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron peut être suivi sur des points. Vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple sur le statut de cheminot, les Français le soutiennent, Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est pas pour ça que dans les sondages, il monte. Donc ça veut dire que c'est des sujets comme ça, sur la CSG, qui sont plus prégnants finalement.
Quand on sort de Paris et qu'on se balade un peu en France, on sent qu'il y a plusieurs thématiques qui sont en train de monter et qui se retournent contre le gouvernement, notamment la baisse de la CSG, Paul Quignot en a parlé, les 81 km/h. Enfin, il y a certaines mesures sur lesquelles ça cristallise et il y en a un certain nombre. Et donc il y a une partie de la population qui est en train aussi de décrocher. Alors ça arrive lentement dans les sondages, ce sera dans quelques mois qu'on va voir les faits. C'est les retraités, c'est les classes populaires, les classes moyennes, et qui sont très vindicatives dans leur discours en disant « il nous a bien eu, Emmanuel Macron, et finalement il est pire que les autres ». Donc ça va commencer, c'est en train de prendre dans certaines...
Dans certains coins de France, en effet. Erwan, non.
Oui, je rejoins exactement ce qui a été dit. Je crois qu'il y a l'augmentation de la CSG, qui a causé beaucoup de tort au gouvernement. Il y a aussi, ils avaient eu un discours très offensif sur le fait que les Français allaient voir une augmentation de leur pouvoir d'achat grâce à la, et sur leur feuille de paye, des chiffres très importants. On avait à écouter les déclarations. J'ai regardé à nouveau les déclarations du gouvernement au printemps, avant l'été. Ils étaient très offensifs sur le fait ça allait être une réforme très marquante. Bon, en réalité, en pratique, les salaires augmentent relativement peu. Et je pense qu'il y a il y a aussi une déception là qui joue par rapport au gouvernement, au discours qu'avait le gouvernement. Et progressivement, tout ce discours, je crois, et toutes ces déceptions installent un peu plus une image qui est peut-être fausse, mais en tout cas qui est là dans l'opinion, de l'idée d'un gouvernement, je crois pas un gouvernement des riches, mais un gouvernement d'élite, très parisien qui se décroche d'une partie de la France rurale. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris, pour le coup, que le président soit aussi absent sur le discours sur la fonction publique et le service public.
Le fameux candidat, enfin, président des métropoles, hein, voilà, contre rural. Paul Tignot, excusez-moi, de ce point de vue-là,
il va faire un déplacement intéressant, je crois que c'est jeudi, où il va, effectivement, sur le...
Mercredi et jeudi, sur l'apprentissage,
sur l'école, sur les fermetures de classe, mais en gros, sur le milieu rural, parce que je pense qu'il a très conscience des dangers de ce décrochage de cette image, en tout cas, du président des villes, et donc, grosso modo, si on caricature, du président des riches, contre le président des campagnes, et des gens qui ont le sentiment d'être relégués par rapport aux autres.
Adrien Quatennens.
Mais il n'y a pas de caricature quand on caractérise politiquement Emmanuel Macron de président des riches. Je veux dire, il y a une signe. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je considère effectivement.
Électoralement, c'est pas si clair que ça.
Je considère que ça mérite d'être clair. En tout cas, ça fait moins d'un an maintenant. On voit quelle est la signature de ce gouvernement. C'est quand même 9 milliards de redistribués aux plus riches sans contrepartie. Ça aussi, le problème, c'est qu'on ne demande pas de contrepartie. On fait le pari que le capital qui est libéré va correctement s'allouer. On voit que ça ne se vérifie pas. Les Français ont vu récemment les chiffres exorbitants, notamment des super profits du CAC 40, 93 milliards. Alors attention, nous avons vu le ruissellement, 93 milliards, sortez les parapluies, ça va ruisseler très fort. Hein. Mais en réalité, les Français ne le voient pas arriver. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, on a eu ces études qui montrent que sur les projections, c'est visiblement les 5% les plus aisés qui vont... Attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les 5% les plus aisés vont récupérer 42% du gain de pouvoir d'achat. Bizarrement, ça met toujours du temps pour effectivement les classes populaires. Par contre, pour les riches, ça ne met pas de temps tout de suite, hein, 9 milliards directement. Il y a des gens pour qui, y compris dans ce gouvernement, quand on a supprimé l'ISF, c'est 62 000 euros qui tombent tout cuit comme ça. Et c'est les mêmes qu'on retrouve sur les plateaux de télé qui disent aux Français, soyez patients, l'argent ne tombe pas du ciel. Ça tombe toujours du ciel pour les uns, il faut toujours attendre pour les autres. Et c'est ça qui est un problème. Et c'est pour ça que les Français sont légitimes à se mobiliser et à réclamer leur dû, finalement.
Allez, de toute façon, on continuera bien sûr à en parler de ce sujet parce qu'il y a un endroit en France où on ne parle pas du tout de croissance actuellement, c'est à Mayotte. Hein. Non, c'est pas vraiment le sujet, puisque le département le plus pauvre de France est toujours sous tension aujourd'hui, malgré les annonces hier de la ministre des Outre-mer Annick Girardin pour lutter contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Les manifestations et les barrages continuent, notamment dans le chef-lieu du département, Mamoudzou. Depuis le 20 février, Mayotte crie sa colère face à une violence grandissante, à une explosion de l'immigration comorienne et un sentiment d'abandon. En métropole, la situation dans le 101e département français devient politique et complexe pour le gouvernement. On va l'entendre avec le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti.
Ce qui se passe aujourd'hui traduit un véritable abandon de la part du gouvernement. Traduit également une dérive des institutions de la République, du fonctionnement des institutions de la République sur ce territoire de France. Sur les conditions migratoires, Laurent Wauquiez l'a dit, nous avons l'exigence aujourd'hui d'arrêter avec les dérives du droit du sol à Mayotte.
Allez, Éric Ciotti, ce matin sur Public Sénat. Marion Mourgue, alors vous avez accompagné pour Laurent Le Figaro, Wauquiez, oui. Laurent Wauquiez là-bas. C'est quelque chose qu'il avait en tête depuis le début, de parler de droit du sol, de faire cette exception, comme il a dit hein, lui-même, pour Mayotte, concernant le droit du sol.
Oui, et je pense que ça a été renforcé aussi avec ce qu'il a vu. C'est vrai que quand on arrive à Mayotte, c'est assez frappant de voir les maisons et les commerces qui sont barricadés. C'est-à-dire que les gens ont peur le soir, donc ça, il suffit d'y aller pour le voir, et il y a un certain nombre de blocages qui se multiplient avec impossibilité de passer d'un endroit à un autre dans l'île. Donc on voit que c'est le dialogue est rompu, et que la population se sent totalement abandonnée, et que le fait que le gouvernement ne soit pas venu tout de suite se dise, mais pourquoi nous on est des citoyens de deuxième catégorie, ça, oui. Qu'on n'a pas le droit à avoir un représentant du gouvernement. Annick Girardin avait dit qu'elle ne voulait pas entendre d'élection.
Voilà, et aujourd'hui, on entend je veux dire, une association qui, eux, souhaiterait en effet davantage Gérard Collomb, voire Édouard Philippe venir aujourd'hui à Mayotte. Hein.
Bah, le fait que le gouvernement ait attendu avant de déplacer, maintenant les demandes sont de plus en plus fortes et donc les Mahorais veulent voir soit Gérard Collomb, soit plutôt même le Premier ministre, voire le Président.
Ouais. C'est ça. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, c'est Stéphane Milhomme.
Philippe Martinez accuse ce soir le gouvernement de choisir l'affrontement avec les cheminots. Déclaration du secrétaire général de la CGT à sa sortie de Matignon. Il considère que le gouvernement aurait la responsabilité totale d'un conflit à la SNCF s'il refusait de revoir ses positions et son calendrier. L'intersyndicale d'Air France, lui, rejette les propositions de la direction et maintient l'appel à la grève pour le 23 mars. La compagnie aérienne veut bien négocier, mais demande aussi la levée du préavis. Air France prête un rattrapage de pouvoir d'achat entre 2011 et 2017. En revanche, il n'est pas question d'accorder les 6% d'augmentation. La Russie réplique dans l'affaire de l'ancien agent double empoisonné à Londres. La Russie se dit innocente par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Malgré les injonctions hier de la première ministre britannique, Moscou n'entend pas coopérer avec Londres, ou en tout cas pas dans ces conditions. Le début aujourd'hui à Paris du procès du groupe de Tarnac, et dès demain, le tribunal se déplacera dans les lieux du sabotage SNCF en 2008, c'était en Seine-et-Marne. 8 militants libertaires comparaissent dès aujourd'hui, notamment pour la dégradation de cette ligne SNCF. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation à Mayotte hein, qui n'est pas réglée et qui va prendre du temps. D'ailleurs, la ministre des Outre-mer est toujours sur place. Paul Quignon, on a entendu Éric Ciotti là à l'instant qui reprend finalement les propositions aussi de Laurent Wauquiez sur revenir sur le droit du sol à Mayotte. Et dimanche, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, lui parlait d'un statut particulier, mais pas de revenir sur le droit du sol. C'est-à-dire voilà, il voulait échanger un petit peu de sémantique. Est-ce que finalement ce... cette histoire est possible, c'est quand même un département français, il y a un risque de ne pas être constitutionnel.
Il y a un risque effectivement constitutionnel, et la solution d'isoler l'hôpital dans une sorte de zone particulière pour appliquer pour remettre en question le droit du sol me paraît quand même une solution technique qui est pas à la hauteur de la situation. Après, où je trouve un petit peu ridicule Éric Ciotti, c'est que faire semblant de croire que la situation là-bas est uniquement de la responsabilité du gouvernement actuel, pardon, c'est ridicule. Nicolas Sarkozy a été confronté au même type de problème, François Hollande aussi. Donc effectivement, c'est compliqué, et c'est une situation compliquée. La situation des Comores, le fait que des Comoriens viennent sur l'île de manière massive, puisque je crois qu'on parle de plus de 20 000 personnes, ce qui est 10% de la population locale. Voilà, c'est un problème très complexe que aucun gouvernement dont aucun gouvernement ne s'est vraiment emparé depuis plus de 20 ans.
C'est ça qui paraît fou quand même. Oui, Marie-Maude.
Non, justement, d'où la colère des Mahorais, parce qu'à chaque gouvernement, il y a des promesses, mais il ne se passe rien. Et les Mahorais demandent eux-mêmes qu'il y ait un statut particulier.
C'est ça, d'accord.
Parce que, justement, il y a un afflux de Comoriens et que la maternité, il y a quand même 10 000 naissances par an.
Voilà, il y a plus de naissances, en effet.
30 par jour.
Il y a une chose, c'est vrai, c'est ça qui est assez étonnant, André Quatennens, c'est en 2009, les Mahorais choisissent de devenir un département français. C'est ensuite, par référendum, c'est acté en 2011 et on connaissait déjà ce problème. C'est-à-dire qu'on a laissé. On a laissé filer, on a laissé faire.
Mais vous avez raison de dire que les Mahorais ont voulu et ont souhaité être un département français. Et d'ailleurs, on voit dans les manifestations, moi je l'observe, qu'ils chantent la Marseillaise. Donc il y a une volonté des Mahorais d'être considérés comme pleinement attachés à la République. J'entendais M. Griveaux dire ce week-end « la République n'a pas quitté Mayotte ». Mais en réalité, l'a-t-elle jamais vraiment été ? Parce que quand, en 2011, Mayotte est devenue un département français, on a tout de suite demandé aux Mahorais d'appliquer les devoirs, c'est-à-dire notamment sur la question fiscale, et les droits, eux, sont venus beaucoup plus tard. Enfin, on parle que de l'immigration, là. Parlons des causes de l'immigration, on peut en parler dans un instant, mais d'abord, les Mahorais se sont mobilisés, d'abord et avant tout, dès 2011, notamment pour la question de la vie chère, où il y a eu aussi des mobilisations pour que le droit social, le droit du travail en particulier, soit correctement appliqué là-bas. Donc on a une situation où, en fait, il y a une espèce de république à géométrie variable, mais là, de quoi parle-t-on ? Il y a d'abord un drame humain sans précédent. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage est de 26%, près de 40% chez les jeunes.
Département le plus pauvre de France.
5000 jeunes non scolarisés, 3000 abandonnés. Ce n'est pas tenable. Alors moi, je pose la question à ce gouvernement. Est-ce que un gouvernement qui ne peut pas régler le problème d'une île qui est française, de 250 000 habitants, peut-il s'occuper raisonnablement de la France ? On a parlé ce matin, j'ai vu que ça fait débat, des fameux 5 milliards de cagnottes supplémentaires qu'aurait le gouvernement. Vous savez, l'association des maires de Mayotte ils se sont retrouvés autour de la table et ils ont dit, nous, on a besoin d'un plan de rattrapage. Par exemple, pour que les services publics retrouvent leur place sur l'île. Ça coûte 1,8 milliard. Que fait ce gouvernement? Il ne répond uniquement que par le pli sécuritaire, en amenant quelques gendarmes sur place.
C'est la demande, mais la
sécurité, c'est la demande. Mais attendez, figurez-vous que la sécurité, les problèmes de migration découlent de problèmes économiques. Parlons du co-développement avec les autres îles, Madagascar. Il y a aussi les partenariats économiques qui ne sont pas égaux, qui expliquent l'immigration. Vous voyez, on voit toujours le petit bout de la lorgnette. L'immigration, c'est une conséquence de d'autres problèmes économiques qu'il faut traiter.
Erwan Lenorant, on le voit en effet, quand il y a un problème, souvent même dans les départements d'outre-mer, on accuse souvent le gouvernement en place de réagir trop tard. On se souvient, il y a un an, c'était en Guyane, on avait dit, le gouvernement à l'époque, c'était de François Hollande, agit trop tard. En fait, on agit toujours trop tard. Dans ces cas-là.
J'ai pas l'expertise des interlocuteurs précédents, mais je crois que sur l'outre-mer, il est vrai que on est quand même dans une situation, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des situations difficiles et structurellement difficiles. C'est vrai particulièrement de Mayotte, c'est vrai aussi d'autres territoires d'outre-mer, et je pense qu'effectivement, il y a un certain prisme qui fait que les élites parisiennes ne sont pas nécessairement très intéressées par ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe dans un certain nombre de départements d'outre-mer. Mais bien sûr, mais comme vous avez des gens qui ne sont pas intéressés par ce qui se passe au-delà du périphérique.
Je rappellerai pourquoi Annick Girardin mit tant de temps, c'est soi-disant pour ne pas gêner un processus électoral. Donc c'est-à-dire qu'il y a des élus qui viennent là-bas.
Mais il y a des élus qui viennent là-bas. Il y a aussi, là, pour le coup, un signe du fait que le gouvernement n'a pas perçu la colère locale et à quel point elle s'était enflammée plus soudainement. Parce qu'elle est, comme je disais, structurelle. Et effectivement, on comprend qu'aujourd'hui, les Mahorais attendent une réponse régalienne à un problème qui est régalien.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'être passé ce soir. Merci, Erwan Lenorant. La une du Figaro, Marion Bourg, demain.
On revient sur les relations entre Angela Merkel et Emmanuel Macron.
Et la une de Libération,
Paul Quignot. C'est la SNCF, la colère à grand train.
Très bien.
À fond de train, pardon.
À fond de train. En effet, il faut toujours respecter les titres, les jeux de mots de Libération. Allez, il est temps pour nous d'entrer.
Depuis toujours.
Jean-François Aquili, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
L'emploi qui repart à la hausse, mais pas de cagnotte. On en parle avec Marie Lebec de La République En Marche, Gilles Platret des Républicains, Brice Couturier de France Culture et Yael Gauze.
Bien sûr, Yael Gauze, bien sûr. Allez, Tout est politique, c'est dans quelques minutes.